Bon, bah c'est vraiment là que je travaille, vous voyez que c'est vraiment là que je fais mes livres. J'ai besoin de tout ça.
France Culture.
Il y a les séminaires de Jacques Lacan qui sont empilés à côté de...
Le Book Club.
L'art de la mémoire. Je regarde un peu.
Oui, bah ça c'est parce que le prochain livre que je fais, c'est sur les mots qui fuient. D'abord, on ne sait plus les noms propres. Pardon ?
Présentez-vous !
Dans la bibliothèque de Barbara Cassin.
Enchantée, Barbara Cassin. Ouais.
Et puis, Lacan, c'est parce que j'étais en train de retravailler encore.
Bon, cette fois, on suit.
Marie Richeux.
Toutes les bibliothèques nous intéressent. Une pile sur la table de la cuisine nous intéresse. Un livre de poche multicorné dans le sac à dos d'un lycéen nous intéresse. Mais il faut le dire, c'est magique de se retrouver dans une maison qui abrite des livres dans tous ses recoins. En nous faisant visiter ces bibliothèques, Barbara Cassin parle de trésors, de ressources secrètes, de livres éternels, mais elle parle aussi d'embarras. Elle manipule des livres grands comme son bras et deux minutes après, un opuscule de 8 pages offert par René Char. La philosophe, philologue, académicienne, poétesse de la traduction, commissaire d'exposition, peintre, oui, tout ça, Barbara Cassin nous ouvre les portes d'un monde peuplé de lettres, une vie entière de recherche, d'écriture et de lecture qui se lit dans les étagères en bois, derrière les échelles et les tableaux de sa mère. Arrivée tout en haut, dans le petit bureau sous les toits, trois piles nous attendent, une pour les Grecs, une pour le poème, une pour la traduction. Mais je vous laisse découvrir tout ça, Barbara Cassin est votre guide pour une heure.
Je viens d'avoir les épreuves du catalogue de Villers-Cotterêts.
Ah oui.
Ici, il y a des livres partout. Donc, c'est des espaces qui sont un petit peu répartis quand même. Là, au premier, il y a plutôt les livres dont je me sers pour les expositions. Uh-huh. Parce que je fais beaucoup d'expos. J'en ai fait 3 et je vais en faire d'autres. Et donc, c'est à la fois des catalogues. Là, il y a mes ressources cachées de bouquins. Voilà.
Pourquoi cachées? Ça veut dire quoi?
Mais parce que je ne suis pas très sûre de savoir ce qu'il y a. Donc, c'est caché pour moi, okay, aussi. Voilà. Okay. Il y a mes propres livres quand j'en ai besoin.
Ouais.
Et puis, par là, il y a ce qui m'arrive et ce que je ne cesse de donner.
Ok.
Voilà. Mais c'est des livres que j'ai pas envie de donner tout de suite. Voilà.
D'accord.
Et puis, par là, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire encore des catalogues, encore des livres peu prévus et très, parfois qui remontent très loin dans ma vie.
Mais dont vous vous servez au moment de la préparation des expositions?
Pas seulement, parce que oui, en fait, il n'y a pas de différence entre les expositions et l'écriture. Mais il y a quand même une différence, c'est-à-dire que si je veux des images, c'est là que je vais les chercher. Bon, voilà. Et par
est-ce
là...
Est-ce que le fait qu'il y ait particulièrement une lumière très agréable dans cette pièce-là, ça a à voir avec les images ou pas?
Non, ça a à voir avec mon bonheur d'être là. Donc, ça m'arrive que je, il m'arrive de travailler là, simplement pour la lumière, pour
Je comprends.
Voilà. Mmh. Et pour l'arbre, parce qu'il y a un arbre qui pousse dans la maison, donc qui est là. Et puis par là, c'est.
Il y en a vraiment partout.
Oui, il y en a partout. Là, c'est les livres, qui sont éternels pour moi.
Mmh.
Et là, c'est ceux que je tripote. À un moment ou à un autre, ce que je viens de recevoir et dont j'ai envie quand même de lire. Mais en fait, il y a un flux de livres ici, d'autant plus que Académie française, que édition. Et donc, il y a un flux de livres que j'essaye de repousser légèrement, de manière à pas étouffer.
Est-ce que je peux m'attarder sur ces deux endroits, Barbara Cassin? Donc, quand même, pour parler de ce meuble qui est non loin d'un lit, pour ne pas dire collé, qui est un meuble carré qui paraît presque pouvoir tourner sur lui-même.
Il tourne.
Donc, qui est une sorte de table chevet.
C'est une
rotative.
Tournante.
Ah ouais.
Oui. C'est simplement qu'il s'est trouvé que j'avais pas d'autre place pour le mettre que là. Et donc, il y a des livres. Si vous voulez, ce qui se passe ici, c'est que dans tout ça, ce sont des livres aussi qui peuvent être imprévus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire? Et je vais tripoter des choses par là. Voilà.
Alors que ceux-là, ce sont les éternels. Je peux dire qu'ils sont pris dans comme trois poutres de bois qui se poursuivent et qui font un encadrement d'une grande glace qui est peut-être qui abrite peut-être des vêtements. Peu importe.
Les vêtements ?
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est pas du tout.
C'est une porte-fenêtre. C'est une porte-fenêtre qui donne sur ma salle de bain.
Voilà, j'étais vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit qui est du fond. Bref, pourquoi est-ce que ils sont éternels ceux-là ?
Parce que j'ai jamais fini de les lire. C'est des livres qui me reposent un jour ou l'autre et qui se représentent un jour ou l'autre. Comme par exemple Karen Blixen ou, ou Jane Austen. Ce sont des livres qui ne sont pas des livres professionnels, mais des livres que je reprends à n'importe quel moment de ma vie. Mmh. Voilà.
On continue ? Voilà. Et... On repasse dans la pièce des images et des ressources secrètes.
Oui. Et là, à l'étage au-dessus, il y a encore... une tonne de livres.
Il y en a beaucoup trop. Hein. Et je n'arrête pas d'en donner, d'appeler des bouquinistes qui viennent les chercher, à condition qu'ils me prennent tout ce que j'ai mis en pile.
Là, on est sous les toits. Et alors, c'est une bibliothèque, c'est laquelle, celle-ci ? Il y a des bandes dessinées ?
Oui, bah, c'est parce que c'est la chambre qu'occupent les enfants quand ils viennent. Donc, il y a des BD, il y a des livres que je leur propose. Et puis, il y a aussi des livres que j'entrepose. Par exemple, il y a le dictionnaire des intraduisibles dans toutes les langues. Il y a les versions, les livres multiples dont je ne peux pas me dessaisir. Mmh. Voilà. Parce qu'ils vont me servir et que je les donne au fur et à mesure des besoins. Et puis, il y a des livres de mon enfance que j'estime pouvoir être aussi de leur enfance.
Donc,
je sais pas, du genre les contes et légendes, quand il y en a, Robinson Crusoe, des choses comme ça. Des choses que j'ai toujours envie de relire aussi avec eux. Voilà.
Je suis attirée par ces deux animaux qui se font face, là.
Oui, c'est des taureaux que j'ai ramenés de Bolivie il y a peut-être 60 ans. Non, j'exagère. On va dire...
Non, on va pas
55.
Dire. Voilà. Donc on redescend, on a fait tout le tour des livres, presque.
Mais vous voyez, par exemple, ici, il y a des livres que j'adore. Et c'est là que je garde, par exemple, les livres de chars, ils sont là.
Donc dans cet étage intermédiaire, qui est le premier par lequel nous avons commencé, qui est l'étage que vous avez appelé... celui des ressources secrètes et des ressources pour les expositions, il y a René Char.
Il y a René Char et pas seulement lui.
Bien sûr.
Il y a les poèmes que nous avons écrits quand on faisait des revues de poésie, etc. Il y a beaucoup de poèmes, de pièces complètement uniques, de toutes les époques de mon existence.
Donc c'est un peu l'endroit des imprévus, quoi, quand même. C'est un endroit... Parce que là, je vois aussi, je reconnais quelques livres très, très contemporains.
Oui. C'est que je ne sais pas où les ranger.
Bon. Donc là, on va au bureau.
On va passer, si vous voulez, par ce qui était mon premier bureau et qui est maintenant... qui est maintenant, en ce moment, la chambre de mon fils aîné. Enfin, ça a été la chambre des uns et des autres, hein.
Les personnes qui sont ici sont des personnes qui vivent au milieu des plantes.
Oui, il y a les plantes et les livres. Les plantes, les livres et les tableaux. Puisque je peins et que ma mère peignait, mon père peignait, donc ça, c'est par exemple, c'est un tableau de moi. Ça aussi, d'ailleurs.
Celui-là ?
Oui, c'est un tableau d'un de mes petits-enfants. Voilà, et là, dans...
Bon, on peut quand même dire là, au passage, qu'il y a déjà des livres partout.
Oui, il y a des livres partout.
Oui, oui.
Et là, il y a des livres. Là, c'est plutôt les polars.
Dans les toilettes.
Dans les toilettes, voilà. Il y a pas mal de polars, il y a pas mal de livres que je ne maîtrise pas.
Mais vous savez qu'ils sont là ?
Oui, quelquefois. Pas toujours.
Il y en a jusqu'au plafond.
Je ne sais pas toujours quels sont les livres qui sont là, mais je sais que ce ne sont pas des livres dont je me servirais beaucoup. Et quand j'ai envie de découvrir des choses, ben je passe. Voilà. Je redécouvre tout le temps.
C'est un peu une maison librairie.
Librairie, oui, avec beaucoup de hasard dans le tas. Mais le problème, c'est que comme j'ai aussi édité, j'ai fait des collections, et j'ai beaucoup de livres en double et en triple, dont je ne peux pas, que je n'ai aucune envie de donner, puisque je les donne quand il y en a besoin, et pas comme ça. Je ne peux pas les laisser partir, tout simplement. Je les garde. Et puis,
C'est quoi tout là-haut, là ? On dirait des couvertures en bois.
C'est des livres juridiques qui appartenaient à mon mari.
D'accord.
Voilà. Et maintenant, si vous voulez, on va aller dans mon bureau.
Allez.
Donc on monte les étages.
Vous y allez tous les jours ?
Oui, c'est mon exercice le plus satisfaisant. Je monte 4 étages, je descends 4 étages, je monte 4 étages, je descends 4 étages. Bref, je fais de la cardio.
À chaque fois qu'il faut se mettre au travail, au sens plus concret, officiel du terme, vous montez les étages.
C'est bien que je travaille aussi tout le temps.
Bah, c'est pour ça que je disais. Alors, il y a bien du travail qui se passe. On est complètement dans le noir, Barbara Cassin. Ok. Merci.
France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque de Barbara Cassin.
C'est un peu magique comme là, franchement.
Marie Richeux.
L'intérêt de ce bureau, c'est que quand les enfants sont petits, ils ont de la flemme de l'autre côté.
Donc vous ne m'étiez pas dérangé. Ah oui, ok. Ils sont tous là. Ouais. Enfin, le reste est là, quoi. Waouh. Il faut décrire cette pièce.
Il y a deux grands murs très hauts qui sont pleins de bibliothèques, c'est-à-dire c'est des planches de bois qu'on a c'est des bibliothèques qu'on a fabriquées nous-mêmes qui sont toutes pleines quoi. Et alors, je sais à peu près ce qu'il y a et à peu près où c'est.
Waouh.
Voilà. Et puis, par ailleurs, c'est sur deux étages, quoi. Enfin, il y a une loggia et donc un étage et demi, quoi, de livres.
Ouais.
Et puis, par là, il y a les livres que j'ai écrits, pas tous, hein, mais quelques-uns. Ceux qui sont reliés, c'était ce que faisait relier mon mari quand il était vivant. Il faisait relier tous les livres que j'écrivais à chacun. Et puis, alors, donc, ça s'est arrêté assez vite. Et maintenant, je perds ceux qui ne sont pas reliés, voilà. C'était fait pour que je les retrouve.
Ouais. C'est beau, comme ouais. geste.
Oui, c'est très beau.
C'est très beau de faire relier les livres de la femme avec qui on vit. Quand
oui, oui, voilà. Donc ça, c'est très beau. Et j'en ai jamais fait relier moi-même, parce que je trouvais que c'était pas aussi
Son
beau.
Geste, ouais.
Voilà. Et...
Donc là, c'est vos livres. Ok, là, c'est un gros bonhomme en bois.
Oui, on a été beaucoup en Afrique et voilà, ça c'était des statues qu'on nous avait données, ça c'était des tableaux de maman, voilà. Il y a beaucoup de choses diverses.
Il y a René Char qui a sa case à lui tout seul ?
Oui, oui, bon, mais ça se trouve comme ça, hein, okay. c'est pas énorme.
C'est pas rangé quoi, pas classé.
Si, c'est les livres que j'aime beaucoup. Et puis c'est ceux, enfin je sais que c'est là, bon. Parce que si vous me demandez, ça c'est ce qui est à donner.
Okay.
Je vais appeler quelqu'un qui va venir les chercher.
Ok.
Voilà. Et ça, c'est ce qui est très important et que je n'ai pas encore rangé, que je ne rangerai peut-être jamais.
Ok.
Voilà.
Donc il faut dire le cahier philosophique, par exemple, Lyotard.
Non, oui, ou Derrida. Radical Philosophy, par exemple.
Par exemple.
C'est un très beau numéro. premier numéro sur le dictionnaire des intraduisibles. Mais bon, il est là. Et c'est pareil, là, c'est les livres, disons, que j'ai écrits et qui sont en traduction et donc que je reçois et que je ne sais pas où poser. Ou des choses dont je sais qu'elles sont là. Par exemple, là, c'est l'âne. Bon, il est là. Il ne bouge plus. Mais c'est pareil, j'ai quelques livres comme ça qui sont impérativement là, Arendt.
Ça veut dire là, ça veut dire à portée de main.
À portée de main et surtout dont je suis absolument sûre que je les trouve les yeux fermés.
Ouais.
C'est les livres de philo, là, on est dans la philo, ouais. Et là on est dans la philo et le grec par là.
Comme nous sommes aujourd'hui, à gauche la philosophie et à droite le grec.
Oui. Mais évidemment que tout se mélange.
J'imagine bien.
Et
ce serait pas de vous connaître si voilà. Ça se mélangeait pas.
Voilà. Et là, c'est les manuscrits qu'il faudrait que je lise, c'est les choses en instance. Et les livres qui sont en cours aussi, quelques livres en cours. Là, par exemple, c'est les traces de ce que j'ai retrouvé quand j'ai travaillé vraiment pour bouquin. Donc j'ai retrouvé des choses que j'avais complètement oubliées.
De vos propres archives.
De mes propres archives. Mmh. Voilà. Et puis, là-haut, c'est les livres que je vous ai préparés.
Ah, formidable. On monte alors, parce qu'il y a un petit escalier en colimaçon.
Oui.
Ça aussi, c'est un tableau de vous ?
Ça, c'est le dernier tableau de ma mère.
Mmh.
C'est Victor, mon fils aîné, qu'elle a peint juste avant de mourir.
Il est petit ? Il est tout petit ?
Tout petit.
Je ne savais pas que votre mère, elle peignait.
Maman était vraiment... Pour moi, elle était un grand peintre. Peignait un peu comme Bonnard, mais à sa manière. Et ça, par exemple, c'est un tableau que j'ai fait d'elle quand elle me peignait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'aime beaucoup ce tableau.
Ouais, c'est
très beau. Elle est presque... C'était la fin de sa vie, elle est presque en train de revenir.
Mmh.
C'est presque une revenante.
Elle est presque déjà en train de revenir.
Oui, c'est ça. Mmh. Ça, c'est une carte de char. Et voilà... Des photos de mes enfants qu'on ne voit pas parce que le soleil tombe dessus. Alors, donc là, on en est au livre étape.
On en est au livre étape.
Bon, alors j'ai organisé les choses en trois temps. Le premier temps, pour moi, c'était les livres étapes du grec.
Mm-hmm.
Bon, de ce qui fait que j'ai l'impression d'être une helléniste. Voilà. Ensuite, j'ai fait les livres étapes de la poésie, de ce qui est inséparable pour moi de l'intérêt pour le grec, d'ailleurs. Mmh. Hein. Et puis, le troisième temps, c'est autour de la traduction. Voilà. Alors, pour le premier temps, à chaque fois, il y a des livres incontournables et pas très rigolos, par exemple.
Mais que vous aimez quand même.
Ah, mais que sans lesquels je ne vivrais pas.
Mmh.
C'est-à-dire, si vous voyez leur état, vous comprenez que je les ai trimballés partout.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est clairement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que mon problème avec les livres sur ordinateur, c'est qu'ils ne s'ouvrent pas à la bonne page pour moi. Voilà. Donc, et mes soulignés sont partis. Et donc, ce ne sont pas mes exemplaires.
Mmh.
Et je dois dire que, par exemple, j'ai une maison en Corse où je travaille beaucoup, mais quelquefois, je sais que là-bas, j'ai tout Homère, mais j'emporte l'Homère que je suis en train d'ouvrir et de crayonner. Sinon, je perds du temps, un temps fou, et je suis très malheureuse.
Mmh.
Ou, je n'emporte pas, et je découvre autrement.
Mmh.
Les deux choses sont possibles. Voilà. Mais un exemplaire contient... un énorme travail.
Mmh. Votre lecture, les traces de votre lecture.
Les traces d'une lecture, oui. Et les traces de mes étonnements qui ne sont pas les mêmes quand je rouvre un autre exemplaire. Mmh. Voilà.
Donc, on commence par quelle pile ?
Grec.
Allez.
Parce que
c'est
celle-là ? Oui, enfin, c'est ça.
C'est pas en super état.
Non, justement, ça, c'est le Dilskranz.
Ah.
C'est-à-dire, c'est la Bible des présocratiques. Et donc, il est en trois volumes.
Il faut expliquer. Moi, j'ai découvert l'existence de Dilskranz en préparant votre bibliothèque, Barbara Cassin. Donc, c'est un livre qui contient d'autres livres, on va dire.
C'est le recueil de tous les textes présocratiques, dits présocratiques, c'est-à-dire écrits, disons, soi-disant avant Socrate. Bon, soi-disant, c'est-à-dire, c'est sûr, mais c'est peut-être pas un bon arrêt. Voilà, peut-être que Socrate n'est pas le bon moment pour arrêter. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été refait, ce livre. Ce sont des livres, trois volumes, qui ont dû être commencés en 1902. Et puis, ça a été un tout petit peu réaménagé par Walter Kranz. Le livre de Hermann Diels a été un peu réaménagé par Walter Kranz. Et Hermann Diels, pour faire ce livre, a édité ceux qui ont édité ce qu'il édite. Je recommence.
Pour faire ce livre.
Pour faire ce livre, qui contient les textes dits des présocratiques, Hermann Diels, qui a édité ces présocratiques, a d'abord édité les textes qui contenaient les textes des présocratiques. Parce que c'est pas, on ne les trouve pas comme ça.
Donc c'est vraiment un livre avec des livres et des livres et des livres dedans.
Voilà, c'est un livre qui est un puits de science.
Ouais.
Et qu'on a... On n'a jamais fait mieux. Alors, on a fait un tout petit peu, on a essayé d'aménager les choses. C'est André Lax et Glenn Most qui ont fait les débuts de la philosophie, des premiers penseurs grecs à Socrate, c'est-à-dire un bilingue que j'ai édité chez Fayard, mais qui complète un peu parce qu'on a fait d'autres découvertes, mais qui ne change pas l'intelligibilité qui est donnée dans le Diels Kranz, qui est vraiment... la Bible pour les présocratiques, c'est-à-dire pour tous les penseurs grecs de tous les débuts, voilà, des débuts de la pensée. Voilà.
Si il est dans cet état, c'est-à-dire sans
couverture,
j'hésite entre misérable et magnifique, mais on va dire fragilisé, usité.
Oui.
C'est que vous l'avez depuis longtemps, Barbara Cassin, et que vous travaillez régulièrement dessus.
Oui, c'est un livre que. Que je crois François Fédier m'a donné. Et c'est-à-dire que c'était des moments où je travaillais donc, je ne sais plus, je devais être en classe de peut-être juste après la philo. Et donc, celui qui a remis les présocratiques à l'honneur après Nietzsche, c'est Heidegger. Donc c'est un grand heideggerien qui me les a donnés. Et ensuite, mon travail a été de les interpréter pas comme Heidegger, c'est-à-dire de manière, si je peux être vraiment d'une vulgarité absolue, hein, d'une manière non nationaliste, non nazie, voilà, mais d'une vulgarité absolue, hein, en pensant que les Grecs ne sont pas enracinés dans un sol et dans une race, voilà. Donc, en retravaillant l'ensemble des choses, l'ensemble des évaluations qui sont liées à ça. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée aux sophistes, qui sont bien des présocratiques. Ils vivaient, par exemple, Gorgias, l'un des grands sophistes que j'ai beaucoup travaillé, vivait une génération après Parménide. C'est pas beaucoup. Bon. Et il est censé être complètement aucun intérêt. Voilà. Hein, c'est de la blague, Gorgias, par rapport à Parménide. Parménide, lui... peut remplacer des bibliothèques entières. Gorgias, on s'en fiche. Bon, j'ai essayé de réévaluer les choses, de les faire penser autrement. Et j'ai essayé de comprendre ce que faisaient vraiment les sophistes par rapport aux premiers des premiers. Voilà, aux origines. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'origine ? Donc j'ai essayé de repenser la notion d'origine à partir du fait qu'une génération après, il se passe des choses tellement extraordinaire par rapport à l'origine.
Que
ça la fait repenser comme autrement qu'une origine. Ça met le doigt sur un certain nombre de choses. Voilà.
On continue la pile grecque.
Ça c'est la pile grecque, c'est vraiment l'essentiel. Après, je peux vous lire des bouts de texte.
Allez.
Alors, un bout de ma traduction de Parménide pour que vous compreniez pourquoi ça a l'air si sacré. Si origine. C'est le fragment 2. C'est que des fragments, hein. Donc ça, c'est le fragment 2. Viens que j'énonce. Mais toi, charge-toi du récit que tu auras entendu. Quelles voies de recherche seules sont à penser? L'une que est et que n'est pas ne pas être. C'est le chemin de la persuasion car il suit la vérité. L'autre que n'est pas et qu'ait besoin de ne pas être, celle-là je t'indique que c'est un sentier dont on ne peut rien savoir, car tu ne saurais connaître ce qui, en tout cas, n'est pas, car on ne peut en venir à bout ni l'exprimer. Bon, tac. Est, n'est pas. Engage-toi dans le est et surtout pas dans le n'est pas. Donc, vous avez bien compris que ça, c'est l'origine de la philosophie. Mmh. Bon. J'aurais plusieurs remarques à faire, mais je voudrais vous lire maintenant comment Gorgias répond à ça. C'est-à-dire, une génération après, ce poème de Parménide, Origine, soi-disant, bon, mais Origine, waouh, qui s'appelle Sur la nature ou sur les temps, Gorgias propose un traité qui s'appelle Sur le non-être ou sur la nature. Et il dit par exemple, il fait une première démonstration bien à lui, où il dit que n'est possible ni d'être ni de ne pas être. Vous entendez mes hésitations, parce que le sens grec, ça peut être, il n'est possible ni d'être ni de ne pas être, il n'est ni être ni pas être, il n'est d'être, bon, il y a plusieurs combinaisons possibles. Mmh. Et c'est très intéressant, syntaxiquement, qu'il y ait au moins trois combinaisons possibles. Bon. Alors, je continue. Car si le ne pas être est ne pas être, le non-étant serait non moins que l'étant. En effet, le non-étant est non-étant, tout comme l'étant étant, de sorte que sont, pas plus que ne sont pas, les choses effectives. Mais si pourtant le ne pas être est, l'être, dit-il, son opposé, n'est pas. En effet, si le ne pas être est, il convient que l'être ne soit pas, de sorte qu'en ce cas, dit-il, rien ne serait, dès lors que ce n'est pas la même chose d'être et de n'être pas. Mais si c'est la même chose, en ce cas aussi ne serait rien. En effet, le non-étant n'est pas, ainsi que l'étant, si du moins il est bien la même chose que le non-étant. Voilà donc son discours, même. Voilà. Donc vous comprenez que, à la fois, ça a pu passer pour une vaste blague, et en même temps que ce soit quelque chose d'extraordinairement intelligent, et d'extraordinairement violent par rapport au poème de Parménide. Donc ça a été mon premier axe de travail, et vous voyez, il est contenu dans le Dilskrantz. Voilà. Et il faut savoir que ça s'ouvre autrement. C'est-à-dire que ça s'ouvre, le poème de Parménide s'ouvre par ce qu'il a sous lui, à savoir Homère. Et je crois être la première ou l'une des premières à avoir compris que, par exemple, quand Parménide décrit l'être, comme une sphère, immobile, bien plantée, etc. Il reprend les mots mêmes qui servent à dire Ulysse quand il passe au large des sirènes dans l'Odyssée. Ce qui est quand même incroyable.
C'est incroyable.
Incroyable. Mais c'est vraiment ça. Donc, il y a tout ça dessous. Homère est sous tout ça. Et donc, vous comprenez que dans cette pile grecque, il y ait Homère.
Allez, on y va.
Par exemple, quand Parménide décrit l'être, il dit « Immobile dans les limites de larges liens, il est sans commencement, sans fin, puisque naissance et perte sont dans l'errance au loin, la croyance vraie les a repoussés, le même est restant dans le même, il se tient en soi-même, et c'est ainsi qu'il reste, planté là au sol. Car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite qui l'enclôt tout autour. C'est pourquoi il est de règle que les temps ne soient pas privés de fin. » Vous entendez ça, la description de toon, c'est-à-dire les temps ou l'être, vous traduisez ça comme vous voulez, c'est un participe présent. Bon. Il décrit ça, quand même bizarre, il reste planté là au sol, cette sphère. Bon. Et ça m'a fait sonner quelque chose, c'est ce que dit Nietzsche, c'est ce que disent Schleiermacher aussi, ils disent, il y a des indices comme ça, c'est un petit doigt levé. Bon. Et ben, le doigt levé, c'est que ce qui reste planté là au sol, c'est Ulysse, les pieds plantés dans le sol de son bateau pour ne pas se précipiter et aller au large des sirènes. Vous savez, il s'est fait attacher à son mât. Bon, et il a bouché les oreilles de ses rameurs. Bon, ben ce sont les mêmes mots, et exactement les mêmes mots dans l'Odyssée. Donc voilà, Circé commande de fuir les accents des sirènes. Alors là, vous entendez l'Odyssée, hein ? Au chant divin et le pré en fleurs, pendant qu'elle ordonne que moi j'entende leur voix, c'est moi, c'est Ulysse qui parle, qui raconte. Mais liez-moi dans un lien douloureux, c'est ce qui arrive à l'être, pour que je reste planté là au sol, droit dans l'emplanture, et que je sois maintenu en des limites qui partent d'elle. mais si je vous supplie et vous ordonne de délier, alors serrez en plus de liens. Donc voilà, vous avez là le rapport entre poésie et philosophie à jamais. Bon. Donc ça, c'est incroyable, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis partie du Diels-Kranz. Diels-Kranz, vous pouvez aller vers Gorgias. Et là, je ne vous ai pas fait tout mon baratin sur Hélène, parce que vous retrouvez Hélène, vous retrouvez Lacan encore, vous retrouvez l'éloge d'Hélène de Gorgias, c'est une matrice féministe intéressante. Voilà. Et vous retrouvez dessous Ulysse. Donc vous avez un amont et un aval.
Est-ce que ça nous fait aller vers la pile de la poésie ?
Oui, absolument. Vous allez vers la pile de la poésie qui est,
elle est derrière nous.
Derrière vous.
Alors. Oh là là, il y a des tout petits livres. Des tout petits livres et des très grands livres.
Oui. La pile de la poésie, j'avais envie de commencer par un livre que j'ai retrouvé, qui était celui dans lequel ma mère m'apprenait à lire. Et ça s'appelait « Mes belles poésies ». Mais je ne l'ai jamais oublié et je connais les poèmes par cœur. Je connais le premier poème, c'est « Viens, j'ai des fruits d'or ». Je n'ai pas besoin de le lire, vous voyez. « Viens, j'ai des fruits d'or, j'ai des roses, j'en remplirai tes petits bras, je te dirai de douces choses et peut-être tu souriras. » Victor Hugo. Bon, ça, c'était la première chose que ma mère me faisait lire. Et
mais vous l'avez gardé, ça fait quand même un moment.
Ça fait un petit moment, oui.
Il est magnifique ce livre, il est si vieux.
Ouais.
Il y a des très très belles illustrations.
Oui, et puis, bon, c'est sûr, en fin de compte, je m'aperçois, je l'ai re-regardé pour vous, je m'aperçois que je me souviens de quelques poèmes par cœur, mais trois, et c'est tout, et aucun autre. Donc le premier, l'autre, c'est « La biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Son petit fan délicieux a disparu dans la nuit brune. » Bon, voilà. Et le troisième, qui est vraiment, que j'aime beaucoup, beaucoup.
Vous saviez où il était, ce livre, dans la bibliothèque, ou c'est juste que vous l'avez retrouvé par hasard?
Non,
à l'idée
je
ne
l'ai pas
notre
vraiment
menu.
Retrouvé par hasard. Je l'ai retrouvé il y a quelques années. L'autre, c'est « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. » C'est un poème, c'est Paul Fort, bon, c'est pas des grands poètes, c'est pas ça. Mais voilà, apprendre à lire là-dedans, je pense que c'est ce qu'il faut faire.
D'apprendre à lire de la poésie.
Ah, apprendre à lire là-dedans, bien sûr. Alors, ensuite, bah, j'ai choisi, au fond, après Homère, mais j'aurais pu vous lire La rencontre entre Ulysse et Nausicaa, parce que c'est quelque chose de sublime. Bon, j'ai choisi quelques poèmes qui sont particulièrement chers à mon cœur.
Il faut quand même dire que vos mains, Barbara Cassin, là, déplacent des livres de toute beauté,
oui,
qui ont manifestement énormément d'histoire.
Oui.
Là, par exemple, vous avez un livre si fin.
Oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses, au fond, pour moi, dans une bibliothèque. Il y a le fait que les livres, tant qu'on ne les parle pas, c'est dommage. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour tout le monde. Les livres, moi, c'est fait pour être lu à haute voix. Et d'ailleurs, moi, j'aurais voulu être actrice. Donc, on m'a dit, passe ton bac d'abord, donc ça ne s'est pas fait. Mais j'aime lire, et même lire des choses que je ne comprends pas. Par exemple, j'avais sorti un très beau Shakespeare, qui est le premier cadeau de mon mari, qui est un Shakespeare absolument magnifique.
Vous pouvez quand même décrire cette édition ?
C'est une édition toutes minuscules, de tout petits livres, comme des tout petits micelles, mais minuscules.
Ouais. Vert foncé.
Voilà, vert foncé, il y en a 13, ils sont dans une boîte. Et moi, je lis tout le temps, même si je ne comprends pas, même si je ne comprends pas tout. Je lis tout le temps des sonnets de Shakespeare, par exemple. Let me confess that we two must be twain, although our undivided loves are one. Bon, j'arrête, mais j'adore ça. Et je suis horriblement sensible, c'est-à-dire que moi, je peux me faire pleurer en lisant.
C'est pratique.
Ah oui, c'est très pratique.
Oui, c'est pas mal. Oui. Alors, je suis très curieuse de ce petit livre-là.
Alors, ça, c'est des petits livres que René Char m'a donné et qui sont, pour moi, la deuxième chose, c'est non seulement le livre, ça doit être des sons, mais c'est aussi des vrais objets. C'est aussi des choses de toute beauté. Et donc là, c'est d'ailleurs pour ça que je peux les trafiquer, je peux les torturer, etc. Parce que c'est comme ça aussi qu'ils deviennent beaux.
C'est matériel.
Oui, c'est matériel. Et donc là, par exemple, ce tout petit livre, ce sont des livres qui ont été souvent édités par Pab. Et voilà, c'est un tout petit livre vert, minuscule, avec du papier qui s'appelle Amitié cachetée, qui était du papier, comme du papier buvard ou du papier malgache, enfin voilà. Cette grande part en nous, sommeillante, d'où jaillira demain le multiple. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais ce sont des petits livres qui...
Quand on dit petit, il faut quand même que les auditeurs se figurent que c'est une huitaine de pages à peine.
Huit
pas.
Pages, ouais. Et c'est 5 cm.
Ouais, c'est vraiment...
Voilà. Ça, c'est un petit livre de Pab, avec une illustration de char, c'est une furie. Et ce livre, La Faux Relevée, La Faux, F-A-U-X, Relevée, c'est un livre que je lis, par exemple, quand j'ai un ami très cher qui meurt. Par exemple, le père Breton, Stanislas Breton, qui avait un rire merveilleux, qui était un type adorable. J'ai lu ça pour sa mort. Quand le bouvier des morts frappera du bâton, dédiés à l'été ma couleur dispersée, avec mes poings trop bleus, étonné un enfant, disposé sur ses joues ma lampe et mes épis, fontaine qui tremblait dans votre étroit réduit, mon gain aux soifs des champs vous le prodiguerez, de l'humide fougère au mimosa fiévreux, entre le vieil absent et le nouveau venu, le mouvement d'aimer s'abaissant vous dira, hormis là, nul endroit. La disgrâce est partout. Mais vous voyez, au fond, dans les livres et dans ce que je lis, je retiens une phrase. Quand le bouvier des morts frappera du bâton, dédiés à l'été ma couleur dispersée. Et pour moi, une phrase, c'est tout un livre. Et c'est toute une bibliothèque. C'est pour ça que j'ai du mal à sélectionner les livres, parce qu'au fond, par exemple, si je prends dans Ronsard... Car je n'ai pas égard à cela que vous êtes, mais aux doux souvenirs des beautés que je vis, ça me suffit. Voilà.
Ça vous suffit au sens où ça vous nourrit, au sens où ça ouvre votre pensée. Qu'est-ce qui vous suffit, Barbara Cassin, dans une phrase?
Ça remplit mon cœur et ma tête à la fois. Voilà, en gros. Et c'est pour ça que je dis que ça me suffit. Et j'ai souvent cherché quelle phrase comme ça suffisait. Mais en voilà deux. Ça aussi, vous voyez, ce petit livre de chat, qui est aussi minuscule et magnifique, je ne sais pas, 6 cm sur 4, il n'y a qu'une phrase dedans, ça me suffit. Il y en a d'autres, mais celle qui m'intéresse, c'est « Visage sous vos traits, la terre se regroupe ». Bon, ça me suffit.
C'est clair, moi aussi, ça me suffit.
Voilà.
Bon. Est-ce qu'on peut parler de ce livre qui est donc troué et qui est comme un petit coffre en fait, c'est ça?
Oui, ça c'est un livre que m'a donné ma mère, c'est un livre creux dans lequel elle mettait je ne sais quoi, rien je pense, des bijoux, c'est une boîte à bijoux, mais c'est un livre creusé et dans lequel rentraient les petits livres,
offerts par Charles,
certains de ces petits livres, que je ne savais pas où mettre pour pas les tuer, voilà. Ou celui-là, La Faux en 33 morceaux, ça vaudrait le coup que je lise l'ensemble, mais ça serait un peu long. L'ensemble du préambule, lorsqu'il raconte qu'il passait rue de Babylone avec son œuvre en équilibre sur sa tête et qu'il a dû faire un faux mouvement, ou je ne sais pas quoi, il a mal saisi la main du temps et ça s'est cassé en 33 morceaux. Et il en restait 33, donc il les a pris.
C'est trop beau.
Oui, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment.
On peut lire le préambule peut-être? Vous voulez que je le lise, moi?
J'adore lire.
Allez,
je n'ai pas sûr de vous laisser.
Ah bah oui, vous faites bien, allez-y alors.
Souvent le soir, lorsque tout ce qui s'agite et circule a sensiblement réduit son fracas et son allure, qu'il est permis enfin de rapprocher les choses de soi avec une libre minutie, je sors de mon domicile et par la rue de Babylone, je gagne le boulevard des Invalides. J'éprouve une délectation un peu hagarde dans cet endroit, car de tous ses aplombs, le ciel m'entre dans les épaules. Sous une pèlerine de pluie fine, le fantôme de l'impulsion seconde rôde par là. Rue de Varennes, j'emprunte le trottoir du musée Rodin, dont la haute porte verdelière et le joli jardin tout en profondeur, derrière l'hôtel transparent, sommeille, on le devine, sans appréhension. La rue Barbet de Jouy s'ouvre comme une allée. Dès sa première maison, tant la réussite est juste, Le long frisson de mon plaisir est clos et remercie. Remercie Marcel Proust, auquel ce lieu me ramène, site qui lui appartient comme un grain de beauté à une province écartée du corps. Il le donne à toucher, bien que le poète Marcel Proust ne le mentionne, je crois, dans aucune de ses œuvres. Une des nuits dernières, passant ici et songeant à lui, la masse verticale et peu illuminée de mes premiers ouvrages posés en équilibre sur ma tête, j'avançais sans prudence. De loin en loin, une mèche d'arbres surgissait dans l'intervalle de deux maisons. Soudain, à la suite de quelle maladresse, la tour de mes poèmes s'écroula au sol, se brisa comme verre. Sans doute, forçant l'allure et rencontrant le vide, avais-je voulu saisir, contre son gré, la main du temps, le temps qui choisit, main qu'il n'était pas décidé à me donner encore. Le marteau sans maître, placard pour un chemin des écoliers, art bref, dehors la nuit est gouvernée, n'avait plus du livre que le nom. Je ramassais 33 morceaux. Après un moment de désarroi, je constatais que je n'avais perdu dans cet accident que le sommet de mon visage.
C'est incroyable ce texte.
Oui, il est magnifique. Hein.
Moi, j'avais jamais entendu parler de ce texte.
Non, mais il n'existe vraiment que dans ce tout petit livre avec ses 33 morceaux. C'est ça aussi que je veux dire. C'est qu'une bibliothèque, c'est la manière dont chacun des livres a un sommet d'existence. Ben ça, c'est le cas. Et donc, tout ça, c'est le pan, si vous voulez, qui fait que moi-même, j'écris des poèmes. Et je suis typographe. Enfin, il se trouve que j'ai typographié, tiré en typo mon premier livre, qui est un livre de poèmes qui ressemble à rien. Initiation à l'explication de texte. Vous voyez ? Et j'ai fondé
édition
une maison
d'édition.
Oui, c'est le seul livre qu'elle a jamais publié, cette maison d'édition. Hein. C'est moi qui l'ai fondée, donc elle n'existe pas. Initiation à l'explication de texte, voilà. Une femme ne peut être poète. Elle craint tout ce qui ressemble à la hache. Elle coudrait plutôt l'arbre à la maison. Ça, c'est ma réponse à Char. Et j'ai fait ce livre, vous le voyez, ce sont des macules, d'abord. Et de ces macules sort un texte. Et ce texte est à lui-même des notes qui sont des poèmes. C'est ça l'initiation à l'explication de texte.
Vous avez quel âge quand vous faites ça, Barbara Cassin ?
Je sais pas, 20 et quelques. 76.
Vous avez 29 ans, oui.
29 ans, oui. Donc ça a été vraiment, pour moi, quelque chose de magnifique. Si vous voulez, quand même, les livres, c'est ça. Et en fait, les livres qui sont là, c'est aussi des livres qui produisent mes livres. Mmh. Et non pas parce que je m'en sers, mais parce que ce sont des trésors. Et que c'est fait pour irriguer, pour être puisé, quoi. Mmh.
France Culture.
On va à la pile traduction.
On va à la pile traduction.
Le book club.
Donc la pile traduction. Ah !
Dans la bibliothèque de Barbara Cassin.
Je voulais lire un poème tout à fait contemporain qui pour moi a extrêmement compté et qui ouvre la pile traduction.
Marie Richeux.
Ah oui, bah alors allons-y, ouais. Franchement.
Oui. C'est un poème de Francis Ponge dans Pratique d'écriture, où il explique pourquoi les mots ont plusieurs sens, comment il faut que les mots aient plusieurs sens et comment on doit utiliser les mots qui ont plusieurs sens. Chaque mot a beaucoup d'habitude et de puissance. Il faudrait chaque fois les ménager et les employer toutes. Ce serait le comble de la propriété dans les termes. Mais tout mot est obscur s'il voile un coin du texte, s'il fascine comme une étoile, s'il est trop radieux. Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la phrase ait un sens pour chacun des sens de chacun de ces termes. Ce serait le comble de la profondeur logique dans la phrase et vraiment la vie par la multiplicité infinie et la nécessité des rapports. C'est-à-dire que ce serait aussi le comble du plaisir de la lecture pour un métaphysicien. et la cuisinière, à sa façon, la pourrait trouver agréable ou comprendre. La règle de plaire serait ainsi autant que possible obéie, ou le désir de plaire satisfait. Voilà. Je trouve que ce poème est magnifique, et il dit la puissance des mots, et on voit bien qu'ils ont cette puissance dans une langue.
Parce qu'ils sont pluriels.
Parce qu'ils sont pluriels, et au fond, c'est ces mots pluriels de chaque langue qui ont constitué la matrice du dictionnaire des intraduisibles et de la traduction. Donc c'est à partir de là qu'on peut passer au troisième...
Allez, à la pile. Vous nous avez fait un cadeau en organisant tout ça, hein, franchement, Barbara Casson. C'est presque un livre qui s'écrit à la radio, là. Alors, j'ai l'impression qu'elle est là, la pile de la traduction.
Voilà, c'est ça.
Ok. On la déplace. Elle est lourde.
Oui, parce que dans cette pile, il y a mon deuxième trésor. Le premier, c'est le Dilskrantz.
Dont on parlait dans la première pile.
Dont on parlait dans la première pile. Et le deuxième, c'est un Calepinus Septem Liguarum, le premier dictionnaire en 7 langues. Avant, il y a eu un moment où il a été en 11 langues. Celui-là, je l'ai acheté à Naples, lorsqu'on a lancé le dictionnaire des intraduisibles. On l'a lancé à Naples, grâce à un avocat qui s'appelait Marotta, qui nous a beaucoup aidés. Et j'ai été chercher dans les bouquinistes de Naples, ce Calepinus, qui est le premier dictionnaire plurilingue. Et donc, c'est 1779. Voilà. Donc, si vous voulez...
Comment ça marche, alors?
On peut regarder. J'ai pris un mot, par exemple.
Il faut quand même dire que tout à l'heure, on manipulait des livres qui faisaient votre demi-main. Et là, c'est plutôt un livre qui fait votre bras entier. Hein,
mon bras, voilà. Et qui pèse très lourd.
Ouais, j'ai pu le voir.
Donc, si on prend liberté, libertas, parce que l'entrée est en latin. Donc, libertas, on a liberta, on a de l'hébreu, on a du grec, on a de l'allemand, freiheit, du français, gal, liberté. On a du hisp, libertad, et eleutheria pour le grec. Et tout ça vient de liber. Et donc, on a les définitions. Et... les définitions qui ne disent pas quelle est la différence dans tout ça, entre les différents termes, mais qui les mettent ensemble avec des sens différents. Et ce que je voulais essayer de dire, c'est que là, vous avez donc la pluralité des langues, la diversité des langues, et si j'ai choisi « libertas »,« liberté », c'est pour prendre le relais d'un livre qui, pour moi, a été un livre essentiel. C'est le livre de Benveniste, Émile Benveniste, « Le vocabulaire des institutions aide-européennes ». Et lui, par exemple, il prend « libertas », il prend « liberty » en anglais et « freedom » ou « freiheit » en allemand, et avec le doublet anglais « liberty, freedom ». Et il dit la différence. C'est-à-dire, il montre la différence
d'usage
entre...
D'usage à l'intérieur des langues.
À l'intérieur de la même langue, liberty, freedom, et entre les langues, puisque français n'a que liberté, et allemand n'a que Freiheit. Donc, c'est génial. Et liberté, liber, liberty, ça vient des enfants. C'est-à-dire que c'est la liberté qui se transmet de père en fils, qui n'est pas esclave. C'est tout. Hein? Donc, c'est la liberté héritée en vertical. Alors que Freiheit, freedom, et en français on l'a pas, c'est la liberté d'une classe d'âge, la liberté d'ego, de ceux qui sont frei, libres en même temps.
Donc plus horizontal.
Horizontal. Et voilà, vous voyez, c'est le premier exemple qui m'est venu pour parler des intraduisibles. Bon, vous savez bien sûr traduire liberté en... ça pose pas de problème. Liberty, vous traduisez par liberté. Freedom, vous le traduisez aussi par liberté. Ah, ça devient un peu plus gênant. Tiens, vous traduisez les deux par un seul mot. Mais bon, il y a une différence. Et ben voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, et vous voyez pourquoi c'est pas sans lien avec ce que raconte Francis Ponge.
Ponge, absolument.
Voilà.
Ouais.
Donc c'est ça. Le dictionnaire des intraduisibles s'intéresse à la discordance entre les termes.
Et alors, comment ça existe dans le texte de Benveniste?
Ben, il raconte, il y a une entrée liberté où il raconte ça, et c'est génial. Bon, alors, c'est vocabulaire des institutions indo-européennes, c'est pour ça que j'ai choisi liberté, si vous voulez. Mais il en fait bien d'autres. Et c'est quand même très juridique.
C'est pas grave, il a cette façon d'être entre les mots.
Absolument. Et cette façon de réfléchir entre les mots à la différence. Et de toute façon, toute son œuvre est comme ça. Donc pour moi, c'est un grand, grand, grand. Voilà. Et s'il y a un relais, un livre qui compte pour moi, c'est le livre d'Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, parce qu'il est capable de faire ça au sein d'une langue. Donc il fait ça, ces nuances-là, il est diagnostique à l'intérieur même d'une langue. Ça fait partie, pour moi, des outils qui sont des trésors. C'est pas des outils, c'est des trésors. Vous voyez, c'est comme le Diels-Kranz, Benveniste, Alain Rey, Calépinous, c'est des trésors. Donc vous puisez, c'est offert.
Est-ce que c'est la fin de la pile traduction?
Ça peut.
Celui-là, c'est quoi, par exemple?
Ça, c'est le mien.
Bah oui.
C'est le vocabulaire européen des philosophies, le dictionnaire des intraduisibles, qui est donc un dictionnaire qui s'intéresse à la discordance entre les langues. Même, ça peut aller jusqu'aux manières de dire bonjour. Si vous dites bonjour, vous ne dites pas « la paix soit avec toi ».
Non.
Bon. Donc, vous ne dites pas « kairé » en grec, « réjouis-toi, jouis bon. ». Ni « valet, porte-toi bien ». Donc, là aussi, il y a des discordances, alors que ce n'est pas un problème de traduction. Oui, vous dites bonjour. Bon, mais sauf que vous ne le dites pas de la même manière.
Bah, d'un seul coup, ça me rend triste de réaliser que je ne dis pas « réjouis-toi » quand je dis bonjour à quelqu'un.
Oui, ni « jouis ». Kairé, ça veut dire « verse la grâce ». On verse la grâce, la beauté, la grâce. Charis, c'est ce que verse sur la tête d'Ulysse chaque fois qu'il prend un bain, Athéna. Elle verse tout le temps la charis. Il est beau.
Ça va pour lui.
Oh, ça va. Bon, voilà. Donc, le dictionnaire des intraduisibles, qui est traduit, c'est-à-dire réinventé dans une dizaine de langues aujourd'hui, c'est véritablement, pour moi, il y a beaucoup de livres étapes. Mais vous voyez, entre le Calépinous, Benveniste et Alain Rey, vous avez un bain bouillonnant.
Est-ce qu'il y a un livre qu'on a oublié? Il y en a plein qu'on a oublié.
À chaque fois que j'ai fait une pile, il y avait des auteurs contemporains qui m'ont aidé à la faire. Bon, pour la pile sophistique, c'est Deleuze. C'est pas qu'il ait parlé des sophistes, hein. Mais c'est que logique du sens, ou différence et répétition, c'est les structures et les mécanismes qui permettent de comprendre Gorgias par rapport à Parménide. À chaque fois, et celui qui a compris ça et qui en a parlé, c'est Jean-François Lyotard. Bon. Ce sont des tout proches, vous voyez. Pour le rapport à Heidegger et à la langue comme non originel, non enraciné, c'est Arendt, toujours pour moi, dont il s'agit. C'est la différence Heidegger-Arendt. Il y a au fond deux distances qui m'ont permis de clore un épisode Heidegger très intéressant, très important et qui ne sera jamais clos, mais quand même qui m'ont permis d'aller très loin par rapport à ça. C'est l'apprentissage du grec avec Bollack et Wissmann, et l'apprentissage du politique avec Arendt. Voilà. Et donc Arendt, elle dit par exemple que ce qui lui reste, c'est bien la langue allemande, et après le nazisme, c'est bien ce qui lui reste, sauf que elle fait la différence entre langue et peuple. Elle ne se sent appartenir à aucun peuple.
Mais à la langue, oui.
Mais à la langue, oui. Et ça, c'est très intéressant comme différence. Et c'est justement une différence cruciale avec Heidegger. Donc, à la langue, mais pas comme langue nationale, pas comme langue, mais bon, voilà, comme une langue entre autres. Et là, c'est au fond l'auteur, le philosophe contemporain derrière, c'est Derrida. Une langue entre autres, le monolinguisme de l'autre, plus d'une langue, une langue ça n'appartient pas, ça c'est Derrida. Et pour moi, Derrida a recueilli cette intelligence arendtienne, qui dit par ailleurs que... Alors, Je cherche la phrase. Arendt, dans son journal de pensée, à un certain moment, quand elle parle de la pluralité des langues, elle parle de la chancelante équivocité du monde. Et ça me convient tout à fait. Voilà.
Je trouve ça beau qu'on ait cherché une phrase pour terminer cette bibliothèque. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Est-ce qu'il va falloir que vous rangiez tout et qu'on se sente coupable de vous avoir fait tout peut-être pas déranger, finalement, réorganiser?
Non, je réorganise tout à chaque livre que j'écris.
Donc ça va alors?
Bon, là, j'écris pas un livre avec vous.
Ouais. Bon, bah, c'est l'heure de redescendre alors. On redescend? Allez. De penser.
Oui, oui. Et ça fait partie de ce qu'il y a dans une bibliothèque pour moi, c'est des images.
C'est tout un mur de carte postale.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vede, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
À la réalisation de cet épisode, c'était Félicie Faugère. Au son, à l'extérieur, Geoffrey Marianne. Au mix, Alexandre Dang. Toutes les références de textes cités par Barbara Cassin sont à retrouver sur franceculture.fr, à la page des bibliothèques du Book Club, que vous pouvez toutes réécouter en série. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Alexandre Alaibegovic, Jeanne Léos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman, Léa Weissgruss. Thank you.